Voyage.
Bonsoir Sarah Pire.
Bonsoir Didier.
Nous avons un petit voyage peut-être à faire avec vous ce soir, n'est-il pas ?
Tout à fait. Nous avons un voyageur ce soir. Un voyageur qui est ingénieur du son et producteur. Il a entre autres travaillé pour le label Real World de Peter Gabriel, pour qui il a produit 2 albums d'Abdelli. Mais il a aussi réalisé des documentaires radio, participé à des musiques de films. Il est auteur, musicien, photographe.
Et il s'appelle ?
Il s'appelle Thierry Van Roy et c'est aussi, donc je le disais, un voyageur particulièrement passionné et curieux. Et ses productions sont souvent liées à des endroits où il s'est rendu et qui le fascinent. Alors actuellement, il vit dans le sud de la Belgique, en Gaume, mais régulièrement, Thierry Van Roy disparaît dans un autre coin du monde. Il se décrit comme un chien errant de la galaxie qui ne sait jamais où il va et ne va jamais où il sait.
C'est un homme poétique.
Voilà, ça nous promet un voyage particulier. Et si Thierry Van Roy ne sait pas où il va, il s'est souvenu pour nous d'un voyage récent. Il a même préparé quelques éléments pour nous aider à deviner où. Ce sera le point de départ de cette séquence voyage. Voici sous la forme d'une mini-devinette l'endroit dont Thierry Van Roy va nous parler ce soir.
Dans quel pays du monde les parents peuvent-ils garder les enfants à la maison en hiver quand il fait plus froid que moins 52 ? Une république autonome de la Fédération de Russie, qui se trouve au-dessus de la Chine et qui a pour frontière le nord, l'océan Arctique.
Ah, vous êtes marrante, vous, Sarah Pire. Vous passez du chaud au froid, vous passez des tropiques à moins 52 degrés, comme ça, avec un sourire malicieux. Yakouti ?
Oh, mais bravo. Bravo Didier.
Oui. Yes.
Tout à fait. C'est bien la République de Yakoutie en Fédération de Russie, donc dans le nord-est de la Sibérie.
Il y a des jours où je m'étonne moi-même.
Thierry Van Roy a eu un véritable coup de cœur pour cette région qui lui avait notamment inspiré le projet Taïga Maya, un livre.
C'est à ça que j'ai pensé en
CD, fait. CD, DVD. Voilà, bah oui, j'imagine. Avec la participation de la chanteuse Mélanie Gabriel et aussi d'Osvaldo Hernandez.
Absolument. Et Karim Baghili aussi.
Et Karim Baghili et Patricia Van Covenberg.
Absolument.
Voilà. Plus récemment, il en a ramené des photos accompagnées de textes. C'est un recueil qui s'appelle Sibérie Noire, dont on parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, Didier, je vous propose de l'écouter nous raconter ce qui l'a conduit vers la Yakoutie au départ.
Je suis arrivé là tout à fait par hasard à cause d'un petit livre, d'un petit recueil de contes publié par un ami, Contes Yakoutes. Il y avait 3 contes là-dedans et j'ai trouvé ça tellement beau. De fil en aiguille, j'ai trouvé une association qui envoyait des professeurs de français là-bas, donc au fin fond de la Sibérie, dans les écoles primaires. Et je me suis posé la question de savoir ce qu'ils allaient faire là-bas. Et puis on m'a dit que les enfants de primaire en Yakoutie apprennent le français à partir de la 2e année primaire. Voilà, et je suis parti pour faire un documentaire radio là-dessus. Mais en général, je ratisse très large, j'enregistre des musiques, je cherche un peu partout des tas de choses intéressantes, je fais des photos, je filme. Et c'est comme ça que je suis allé d'ailleurs 2 fois en Yakoutie. Et que j'espère que j'y retournerai parce que c'est un pays qui m'a envoûté. Hypnotisé, je ne sais pas comment dire. Je n'en suis jamais revenu, en fait.
Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce pays ?
Ce qui me fascine le plus, c'est le rapport à la nature, qui est un rapport juste. C'est-à-dire que les Yakoutes vivent principalement dans les forêts, enfin dans des petits villages, dans des régions très reculées. Et ils sont tous très conscients qu'ils doivent vraiment vivre en symbiose avec la nature pour leur survie, pour leur confort. Et de la respecter, respecter les animaux. Et j'ai trouvé ça un exemple superbe de cohabitation de l'homme et de la nature. Ce qu'on a quand même beaucoup perdu ici. Là-bas, chaque action est mesurée. Tout se fait en fonction de la chronologie des saisons. Un peu comme ici, dans les campagnes, puisque moi j'habite maintenant en Gaume, je vois bien plus les saisons passées que quand j'habitais à Bruxelles. Il y a toutes sortes d'actions qu'on fait à certains moments et il y a une raison pour ça. En Sibérie, là, c'est même plus une question de confort, c'est une question de survie. Moi, j'ai la chance de rencontrer des 2 femmes de l'université d'Yakoutsk, de la faculté de français. Donc, ils m'ont amené dans les villages et m'ont confié aux bonnes personnes. J'aime beaucoup ces gens. Ils sont très différents des Russes qui vivent dans d'autres villes. Les Russes sont là surtout pour le business. Donc, par exemple, Mirny, qui est la plus grande mine à ciel ouvert du monde, dont le trou fait plus d'1 kilomètre de profondeur.
Parce que c'est un pays qui est vraiment très très riche au niveau des minerais et des diamants.
Oui, tous les diamants russes viennent de Yakoutie. À la chute de l'Union soviétique, la Yakoutie a réussi à négocier ses diamants et a obtenu beaucoup d'argent en échange. Et donc, il y a eu une phase où la Yakoutie a pu construire des immeubles, des buildings qu'on voit très modernes, à côté des maisons en bois à l'ancienne. Je pense que ça a duré une dizaine d'années. Et puis, Poutine est arrivé et puis il a coupé le robinet. Il a dit, c'est à moi tout ça. C'est fini. Donc, cette manne financière, c'est tari. Et puis là, il vit un peu, ça vient un peu au ralenti, je pense. Et puis, il y a le contexte aussi de la chute de l'Union soviétique. Avant, les prix étaient tout à fait artificiels. Donc, un trajet en avion de la capitale Yakoutsk, un petit village qui se trouve à 2000 km, coûtait l'équivalent de 3 euros ou 4 euros, je ne sais pas. Maintenant, c'est 1000 euros. Donc, il n'y a pas d'argent. Les gens, évidemment, ne gagnent pas ces sommes-là. Donc, ils sont obligés de rester au village. Ils ne font plus beaucoup de commerce avec la capitale. Tous les hommes retournent dans la forêt. Avant, ils avaient encore du travail dans des sauf-causes, des fermes collectives. Et maintenant, tout ça s'est délité. Donc, ils vivent dans la forêt.
La première fois que vous êtes allé, vous avez rencontré les habitants d'un village? Vous avez rencontré tout de suite ces personnes dont vous parlez ou...
Oui, je ne suis pas resté longtemps à la capitale. Je me suis retrouvé directement dans les villages. Il n'y a pas beaucoup de villages. Le pays est grand comme, par exemple, la province du Nord, qui s'appelle la province de l'Olenok, est grande comme la France. Et il y a 4 villages d'à peu près 700-800 habitants, si je ne me trompe. Les distances sont énormes. Tout est très compliqué, les transports. Il n'y a pas de route. Les seules routes sont les fleuves gelés. Donc, on roule sur les fleuves. Moi, j'ai voyagé uniquement sur les fleuves. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très inconfortable parce que les fleuves ne gèlent pas comme des étangs tout plats. Ils gèlent par vagues successives, donc c'est très chaotique.
On le voit dans une de vos photos, d'ailleurs, une espèce d'écaille qui sort de la route.
Et c'est assez dangereux, d'ailleurs. On peut se perdre puisque ce n'est pas vraiment fléché et puis il n'y a personne. Je me souviens qu'on avait fait... Je voyageais avec un chauffeur qui était un peu trop porté sur la vodka. Et on a fait une sortie de route, donc on s'est retrouvé dans un fossé dans 2 mètres de neige. Il fallait attendre que quelqu'un passe, mais on aurait pu attendre un mois. Parfois, il n'y a personne qui passe pendant un mois. Quoi. Bon, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a attendu que 5-6 heures. Et puis,
à quoi on pense à ce moment-là?
On ne se rend pas compte, en fait. Moi, je ne savais pas qu'il n'y avait personne. Bon, en bon occidental, je me dis, il y a quand même des voitures. Il y a une route, donc il y a des voitures. Ben non, ça peut. Il n'y a rien, parfois, une semaine, 2 semaines.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, il y a un camion qui est passé. Là, tout le monde est équipé d'un gros treuil à l'avant. Et le type nous a vus dans le fossé. Je pense même qu'il connaissait le chauffeur, qui ne devait pas être à sa première sortie de route. Et puis, il nous a tirés de là. Et puis, on est rentré. On a continué, quoi. Moi, je n'ai pas vraiment peur. Ce n'est pas ça qui me fait peur. Quoique le froid, c'est très angoissant. Je suis un jour allé marcher dans la taïga avec mon hôte. J'étais bien équipé, j'avais des vêtements en fourrure au-dessus de moi, mais il y avait un gant qui était percé, je sentais le froid qui rentrait dans ma manche, qui commençait à refroidir mon bras. Il faisait tellement froid que ça allait vite, et je calculais le temps de retour. Je ne sais pas, je imaginais que j'allais perdre mon bras. Parce que là, on peut facilement perdre ses oreilles, ou le bout de son nez, quand on a le bout du nez qui a gelé, ce qui va très vite. On le sent toute sa vie, on a mal au bout du nez toute sa vie.
Il en a vécu des choses, hein, Thierry Van Droy. Et il vous a raconté tout ça, et même plus encore, je pense.
Et bien plus, Didier, oui, effectivement.
Vous avez gardé une petite partie seulement.
Oui, je pense qu'on aurait pu faire vraiment une émission entière sur les expériences de Thierry
Van Droy. Une semaine entière.
Ça peut-être pas quand même. Mais...
Il ne vous a pas parlé du Burkina Faso?
Non.
Non?
Non, rien que
il
sur la Yakoutie.
Il ne vous a pas parlé de la poussière dans les tables de mixage lorsqu'il allait faire des enregistrements là-bas?
Ce sera pour une prochaine fois, je pense. Je pense qu'on va le réinviter.
Ça, c'est quelque chose.
Ouais. Voilà, non, nous on a plutôt parlé du froid et des conditions impressionnantes qui imposent ce mode de vie très contraignant et cette relation à la nature aussi qui est vraiment fascinante. C'est en 2012 en fait que Thierry Van Droy est retourné pour la deuxième fois en Yakoutie. Il a pris notamment les photos qui sont publiées dans le recueil Sibérie Noire, des photos magnifiques, un peu irréelles, accompagnées par des textes écrits après coup de retour en Belgique et aussi à la fois drôles, poétiques et surréalistes. Alors quand on évoque la Yakoutie, on pense aussi au terrible goulag, c'est une des réalités de la période soviétique de la région. Elle a interpellé Thierry Van Droy, il nous en parlera, mais la Yakoutie, c'est surtout un lieu où la nature magnifique garde une place absolument incontournable, un de ces lieux rares où il est encore possible de se perdre.
J'ai une âme de trappeur, j'ai toujours envie d'aller dans des coins comme ça. Peut-être dans des situations de survie, je me sens plus à l'aise que dans des situations d'opulence. Et puis là, c'est surtout la nature. Moi, je suis très sensible. La nature et les paysages sont tellement fabuleux. Et la neige, c'est tellement magnifique. Dans un des villages où je suis allé, tout au nord, ils avaient annoncé ma venue. Et puis, quand je suis arrivé, ils étaient tous dans une sorte de disba grande qui servait aux fêtes, aux rituels. Alors, ils étaient tous en cercle. Et je suis rentré dans cette pièce et il y avait un silence terrible. Ils me regardaient, moi je les regardais. Et ça a duré 2 minutes comme ça. Et puis quelqu'un a commencé à chanter et ils ont commencé à tous chanter pour moi. C'était assez magique. Et puis c'était toute la fête pendant toute la journée. Ils m'ont dit, mais tu es le premier étranger à être jamais venu dans cet endroit. Jamais aucun étranger n'est venu ici. Peut-on encore se perdre dans le monde actuel? Peut-on encore trouver des endroits où personne n'est jamais allé, où aucun étranger n'est rentré, où on est le premier étranger? Je pense que ça ne m'arrivera plus, je ne vois pas. Mais bon, j'étais fort impressionné par cette région, ces histoires de goulags. J'ai vu les goulags, il n'y a pas de barrière autour des goulags. Simplement, la nature est une barrière infranchissable. On ne s'évade pas d'un goulag en hiver parce qu'on marche une demi-journée puis on est mort. Je raconte ça dans Sibérie Noire. J'ai rencontré une femme qui tenait un petit musée dans un tout petit village, un petit musée des goulags. Donc, il racontait l'histoire de ce village qui avait été construit pour le goulag. Les Yakouts ont un passé un peu trouble, un peu malgré eux, avec les goulags, puisqu'ils ont travaillé pour les Russes. Ils ont servi de garde aussi dans les goulags. Donc là, on sent qu'il y a encore ce passé. Cette femme, qui était très vieille, me racontait que son père avait été arrêté parce qu'il avait, à la pause déjeuner, il avait mis un poisson sur le journal. Il avait commencé à nettoyer, enlever les tripes du poisson sur ce journal, au verso duquel se trouvait le portrait de Staline. Et donc, quelqu'un l'a dénoncé comme agitateur, ou je ne sais pas, comme lui. Bon, il nettoyait juste son poisson. Puis il a été envoyé dans un camp. Donc c'était un Russe. Il est envoyé dans ce camp, puis sa famille s'est installée. Les descendants, ils vivaient parfois en famille dans ce camp. Ils avaient des enfants. C'était un peu... C'était pas comme une prison ici. C'était tout un univers en soi.
Donc c'est une histoire vraie que vous racontez dans Sibérie Noire.
Sibérie Noire sont toutes des histoires vraies, mais j'aime bien l'idée de réécrire l'histoire et d'imaginer qu'elle prend un autre chemin.
Les détourner un peu.
La détourner, imaginer ce que le monde pourrait devenir si on ne réagit pas de la bonne manière. Et je pense que c'est un peu Sibérie Noire décrit un peu le monde qui nous attend. Qui n'est pas toujours noir d'ailleurs. Mais il y a quand même des...
C'est un peu
une mise en garde. Voilà, Sibérie Noire, c'est rare de trouver du noir en Sibérie, sauf la nuit. Et encore, la nuit, les plus belles choses qu'on puisse voir sont les aurores boréales, qui sont assez particulières en Sibérie. Parce que dans un des villages où j'étais, on m'a raconté que c'était près du pôle du froid, qui s'appelle Omiakon. C'est l'endroit le plus froid de la Terre. Je pense que c'est moins 72, le record, au moins 80. Et puis ils disent qu'à partir de moins 60, les aurores boréales balayent le village comme un rideau et ça crépite. En fait, ils voient cette espèce de rideau qui passe dans le village. En fait, il y a une sorte d'ionisation de l'air et ils entendent un bruit de crépitement quand ces aurores passent sur le sol.
Wow. C'est aussi le pays de tous les contrastes. Il y a le chaud et le froid, il y a le noir et le blanc. Parce qu'il y a aussi pas mal de photos qui parlent de la pollution qu'il y a dans ce pays tout blanc et puis tout noir, en fait, à certains moments.
C'est vrai que c'est le pays des contrastes. J'ai surtout senti ça quand on est invité chez quelqu'un dans les villages. Il y a le sauna traditionnel. Donc, avec l'homme de la maison, je suis invité. Et au fond du jardin se trouve le sauna. On était en plein hiver. Donc, il faisait moins 45 dehors. On est allé dans le sauna où il faisait certainement 90 degrés, quoi. C'est vraiment très très chaud, mais c'est très artisanal. C'est une cabane en bois avec un énorme poêle et des pierres qui sont très fort chauffées. Comme on est nu dans le sauna, puis après 10 minutes, un quart d'heure, on sort. On ne tient pas plus que ça dans un sauna à 90 degrés. Donc on sort, il fait moins 45. Puis là, c'est très confortable. On est sans vêtements en pleine nuit, moins 45. On marche un peu, on se promène, on discute le coup.
Vous tenez combien de temps à moins 45?
3-4 minutes. Et puis on sent tout d'un coup que ça commence à refroidir un peu. Puis on rentre dans le sauna où il fait 90 degrés. Donc il y a une amplitude de 135 degrés que le corps supporte. Mais ça, c'est un des contrastes. Et le contraste du climat aussi. Bizarrement, dans ce pays, il fait si froid en été. L'été est très court. Les jours sont très longs. Il fait 40 degrés. Et les Yakouts ont des potagers luxuriants, cultivent des tomates, des potirons, mais ça ne dure qu'un été très court. Et comme les jours sont très longs, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, et donc c'est une sorte de potager accéléré, quoi. Ils font les réserves, ils mangent beaucoup de légumes parce que leur problème sont les vitamines. Surtout dans le nord, ils perdent toutes leurs dents parce qu'ils n'ont pas de légumes. Alors la seule source de vitamines pour eux, ce sont toutes les baies. Il y a une quinzaine de sortes de baies qui cueillent à la fin de l'été, donc fin août. Toute leur cuisine est basée autour de ces myrtilles ou de ces baies. À tous les repas, on mange de la confiture de ces myrtilles avec le renne, avec les tripes de poulain aussi qu'on m'a fait goûter. Ça, c'était quand même une très mauvaise expérience.
C'est aussi intéressant en tant que photographe, je suppose, ces contrastes dont on parlait. C'est quelque chose que vous avez fait de manière évidente, la photo sur place, parce que vous vous exprimez au travers de différentes disciplines.
Oui, je suis assez multi-casquette. Depuis très longtemps, je fais de la photo, mais là, j'allais pas pour ça. Et dans Sibérie Noire, j'ai fait ça avec un petit appareil que j'avais pris pour prendre des portraits de mes hôtes. Et d'ailleurs, à ce moment-là, pas de matériel super pro. Et pour moi, ça n'a aucune importance. C'est pas le matériel pro qui va faire qu'une photo est intéressante ou pas. J'aime pas le style carte postale, mais ça ne me vient pas à l'idée. Je photographie des objets qui n'ont a priori aucun intérêt, aucun sens. Et puis j'écris une histoire là autour. Et c'est une sorte de film qui commence à sortir de cette photo. C'est ça qui m'intéresse. Tout peut fonctionner, ça dépend comment. Ça dépend de l'imaginaire qu'on met dans la photo. Mais j'ai retravaillé systématiquement toutes les photos pour leur faire raconter une histoire, en déformant un petit peu.
Vous avez déformé un peu les histoires des personnes et un petit peu les photos aussi.
Voilà, tout est déformé, mais je pense que on déforme absolument tout, que le réel n'existe pas vraiment. C'est ce que je pense, donc. Autant faire ce qu'on veut, puisque de toute façon, il n'est pas réel.
Puis vous n'êtes pas vraiment là non plus, vous êtes toujours là-bas.
Voilà, dans Tagamaya, ma bio, c'était pour expliquer en 10 lignes que je n'existais pas, que j'étais là tout à fait par hasard, mais que j'allais bientôt disparaître. Et probablement, c'est ce qui va arriver, mais personne ne sait. Parfois, j'ai l'impression que tout ça n'est qu'une illusion, qu'un jour, quelqu'un va tirer la prise, puis on va tous disparaître. Quoi. En fait, on n'existait pas, on était purement virtuel. Qui sait ?
Quel drôle d'oiseau, ce Thierry Van Roy. Hein.
C'est un peu l'esprit de Sibérie Noire, effectivement. C'est un peu décalé.
Complètement décalé, sans doute, d'après ce que j'ai compris.
Et comme je vous le disais, on aurait pu vraiment réaliser toute une émission avec tout ce que Thierry Van Roy a raconté sur la Yakoutie. Un pays qui l'inspire et qui l'habite réellement. Il nous a parlé aussi de la pollution, du réchauffement climatique qui affecte bien sûr le pays et ses effets qui deviennent de plus en plus visibles en Sibérie. Il nous a parlé du chamanisme aussi, très très présent là-bas et qui l'intéresse énormément. Tous ces thèmes et toutes ces histoires vécues apparaissent dans les photos et les textes de Sibérie Noire. C'est un univers qui fait voyager vraiment loin. C'est beau et c'est décalé, comme on le disait. C'est très chouette. Sibérie Noire est paru chez Malmström Revolution.
Voilà, c'était le voyage avec Sarah Peer qui a fait parler un voyageur, un vrai voyageur en l'occurrence, hein, un vrai curieux de l'écorce terrestre. Et il adore non seulement rencontrer des murs, mais aussi des gens. Il s'appelle donc Thierry Van Roy. Merci Sarah.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.